Ce que nous avions essayé de débrouiller, ce qu'on avait essayé de débrouiller, c'était encore une fois sur une très courte période. Une fois dit que Foucault ne considère que de courtes périodes historiques. Sur une très courte période, la succession de trois formes. La forme Dieu correspondant à l'âge classique, la forme homme correspondant fin 18e, 19e, et une forme que par commodité et en raison des allusions de Foucault, nous nommions, en référence à Nietzsche, la forme surhomme ou la forme d'un avenir prochain. Et vous vous rappelez tout notre thème, c'est que, pour une fois, cette histoire du surhomme, c'est pas du tout aussi, ni aussi grotesque, ni aussi compliqué qu'on le présente, que ça veut dire quelque chose de très très précis. À savoir que, de toute manière, les formes, Dieu, l'homme, le surhomme, etc., sont l'expression de rapports de force déterminables. Quand les forces, si bien que notre titre général aurait pu être, quand les forces dans l'homme entrent en rapport, trois petits points. Trois petits points, puisque les trois petits points renvoient une variable. Quand les forces de l'homme dans l'homme entre en rapport avec des forces venues du dehors, suivant la nature des forces du dehors, le composé des forces sera la forme Dieu. Le composé des forces étant toujours une forme, le composé des forces sera dans un cas la forme Dieu, dans un autre cas, la forme homme, dans un autre cas, ce qu'on peut appeler la forme surhomme. Et la dernière fois, on avait essayé de préciser cette forme surhomme comme forme de l'avenir, et l'on était arrivé à l'idée que la forme surhomme découlait d'un rapport de force qui est tel quel, lorsque les forces dans l'homme, vous voyez, ce n'est pas un monstre, le surhomme. C'est lorsque les forces dans l'homme libèrent dans l'homme même un être de la vie, un être du langage, un être du travail. Donc je ne reviens pas là-dessus. On avait essayé de dire en quoi un être du travail, d'une certaine manière, c'était le silicium. Un être du langage, d'une certaine manière, c'était ce que nous appelons littérature au sens moderne du mot littérature. Et un être de la vie, c'était d'une certaine manière ce qu'on appelait le code génétique, avec une toute nouvelle conception de la biologie et de la vie elle-même. Bon, alors ça, c'est, on se l'accorde, à moins qu'il y ait lieu de revenir sur des points, c'est vous qui me dites, je veux bien, je suis tout prêt, il n'y a pas lieu de revenir. Je signale que la lettre de... J'avais fait allusion très rapidement à un texte de Rimbaud, à un grand texte de Rimbaud, qui d'une certaine manière coïncide fort avec les grands textes de Nietzsche à cet égard, lorsque Rimbaud esquisse l'homme de l'avenir dans la grande lettre à Doménie, dite et ordinairement appelée la lettre du voyant. C'est un bon mot, voyant. La lettre du voyant nous dit quoi? Il y a un paragraphe, vous le trouverez, par exemple, dans n'importe quelle édition des lettres de Rimbaud. Il y a un paragraphe qui m'intéresse particulièrement, puisque le paragraphe de Rimbaud développe trois idées, trois points. Il nous dit que cet homme de l'avenir, c'est l'homme. Exactement comme je dis, que ce soit même pour le surhomme, il s'agit des forces dans l'homme. Et à quelle puissance les forces dans l'homme peuvent-elles être élevées? Comprenez, ça veut dire la forme homme n'épuise pas les forces dans l'homme. La forme homme correspond uniquement à un certain degré de puissance des forces dans l'homme. Si pour des raisons quelconques, les forces dans l'homme atteignent un autre degré de puissance, vous avez une autre forme que la forme homme. Pas compliqué tout ça. Ça me paraît très très simple, très clair, cette histoire de surhomme. C'est pas du tout. C'est violemment poétique, mais c'est également un concept très rigoureux, très précis. Tout ça, ça va ensemble. Je dis dans la lettre du voyant, le paragraphe auquel je pense, vous le trouverez facilement, est vraiment construit sur trois points. L'homme de l'avenir est présenté comme, je vous disais, là c'est l'expression même de Rimbaud, chargé des animaux mêmes. Il est chargé des animaux mêmes. Ça c'est le premier point. Je dirais, c'est l'homme en tant qu'il libère en lui un être de la vie. Deuxième point, il est chargé de l'informe, dit Rimbaud. C'est-à-dire, il est chargé de l'inorganique. C'est ce que j'appelais, pour commodité, la revanche du silicium sur le carbone. Il est chargé des rochers même. Le rocher, c'est là où règne le silicium, c'est le règne de l'inorganique. Et voilà, je vous disais que, dans des conditions que Rimbaud ni Nietzsche ne pouvaient prévoir, c'est vrai que tout ce qu'on nous raconte aujourd'hui sur les machines nouvelles, les machines de troisième espèce, admirer que ce soit la revanche du silicium. Par rapport au carbone organique. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, si bien qu'une année ou une autre, même cette année peut-être, je voudrais qu'on fasse une séance sur les rapports silicium-carbone, car je vous rappelle qu'en effet, il y a très longtemps que les biologistes, enfin les plus intéressants, ou les cosmobiologistes, posent la question, mais pourquoi la vie est-elle passée par le carbone? Pourquoi pas autre chose que le carbone? C'est un problème passionnant pour la chimie, ça. Vous feriez de la chimie, c'est ça qui vous intéresserait, peut-être. Et pourquoi le carbone? C'est là où, si vous voulez, la philosophie rejoint la science. La question pourquoi, quand on dit qu'il n'y a pas de pourquoi en science, c'est pas vrai. Mais pourquoi là? Ça, c'est un problème de la raison insuffisante. Pourquoi la vie est-elle passée par le carbone plutôt que par autre chose? Ça ne pouvait pas marcher autrement. Ça met en jeu toutes sortes de questions. La contingence de la vie. Pourquoi ce matériau-là? Émerveille, alors. On peut toujours, mais vous savez, c'est compliqué. Là. Si on nous dit, par exemple, on nous dit le silicium, les chaînes de silicium, elles n'auraient pas été stables. C'est vague, allez y voir, ça dépend dans quelles conditions. Qu'est-ce qui définit la stabilité d'une chaîne? Bon, mais aujourd'hui c'est formidable parce que, voyez comment on pourrait poser le problème des rapports vie-machine, notamment au niveau des machines modernes. C'est que ce qu'on appelle les puces, hein, qui sont l'élément fondamental des machines de troisième espèce, les puces, c'est du silicium. Les machines de troisième espèce, elles représentent une véritable revanche du silicium sur le carbone. Là, c'est le silicium qui présente des avantages incontestables. On pourrait concevoir des machines de troisième espèce sur le carbone. Bien plus, on nous l'annonce déjà. Car les ordinateurs futurs, les machines de l'avenir à venir, elles reviendront au carbone. On nous dit bien que les vrais robots, ce seront des robots organiques. Alors il va y avoir, c'est comme un détour. Vous avez, ce serait très beau comme figure, là. Nous sommes en pleine prophétie. Vous voyez, vous avez les machines de troisième espèce, les machines modernes, qui représentent, fondées sur le silicium, elles représentent la grande revanche du silicium. Il y a une guerre des éléments chimiques. Le carbone a tout étouffé au niveau d'une chimie organique. Tout est passé par le carbone. Mais les autres éléments protestent. La protestation des autres éléments. Il y a le vagissement des autres éléments là, dans la nuit du monde. Et puis, revanche du silicium. Par l'intermédiaire de notre technologie. Le robot, la machine à feedback, l'ordinateur, ça, c'est la revanche du silicium. Et puis, on nous annonce que les vrais robots de l'avenir, ce sera un retour au carbone, ce sera des robots organisés. Et tout ça pour dire, c'est le règne de l'informe, c'est la promotion de l'informe. C'est l'homme qui libère les forces de l'informe, les forces du silicium. Le surhomme, c'est aussi compliqué que ça, mais pas plus compliqué que ça. Et ne me dites pas que là, je réduis ça à du scientisme, à l'histoire du surhomme. Non. Parce que le rapport avec le silicium, il s'incarne dans certaines technologies, mais il déborde beaucoup la technologie. Les histoires de l'utilisation du silicium, etc., que ça déborde infiniment la science, puisque ça animera de nouvelles formes d'art, ça animera tout ce que vous voulez, ça met en jeu l'ensemble d'une condition humaine, ou post-humaine, ou supra-humaine, ou surhumaine, tout ce que vous voulez. Donc ça m'intéresse beaucoup que, après avoir dit l'homme chargé des animaux même, Rimbaud ajoute, l'homme chargé de l'informe. Et je crois qu'il faut traduire informe à la lettre, l'inorganique, le rocher. Et il ajoute, enfin, chargé de la langue. Chargé de la langue. Il dit un nouveau langage universel. Pourquoi un nouveau langage universel? Parce que ce n'est pas un tour au langage universel du XVIIe siècle. Un nouveau langage universel qui serait quoi? Il précise l'âme sur l'âme. L'âme sur l'âme, c'est curieux, parce que c'est une expression tellement voisine de celle que Artaud emploiera. Un langage qui va de l'âme à l'âme. Et dont on a vu, je reviens pas là-dessus, d'une certaine manière, il pouvait définir la littérature moderne. Bien alors. Et pour grouper les trois notions, chargé des animaux mêmes, chargé de l'informe et chargé de la nouvelle langue, Rimbaud a une expression admirable. La pensée accrochant la pensée et tirant. C'est la formule d'une nouvelle, une espèce de croc de la pensée. C'est beau, la pensée accrochant la pensée, étirant. Le crocheteur de la pensée. Le surhomme comme crocheteur de la pensée a trois bras. L'informe ou l'être du travail. La littérature ou l'être du langage, les animaux mêmes ou l'être de la vie. Reportez-vous à la lettre d'Artaud, à la lettre de Rimbaud. Alors on en était là. Pas de questions, tout est limpide, tout va bien. Bon. Alors continuons. Je me dis, ben, on a été comme trop loin, là, ça, en effet, vous comprenez. Alors, il faut revenir à des choses plus modestes, hein, avant d'en finir avec tout ça. Et je voudrais dire, eh ben, soyons plus modestes. On se rabat sur un domaine moins lyrique, hein, moins... On va se rabattre parce qu'il me semble que ça existe chez Foucault aussi. Et qu'on va trouver décalé une analyse semblable au niveau de ce qu'on pourrait appeler trois formations juridiques. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Trois formations juridiques où peut-être on pourrait découvrir la succession des trois formes sous un autre aspect. Forme Dieu, forme homme, forme d'un quelque chose à venir. Ce serait comme trois états du droit. Voilà, c'est là-dessus, c'est ça qui... Oui.
J'ai une question sur la forme Dieu.
Ouais.
Sur la forme composée Dieu.
Ouais.
Je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut avoir une forme composée Dieu et en même temps un concept d'homme. Parce qu'au Moyen-Âge, il avait un concept d'homme, à l'âge classique, il avait un concept d'homme, quand même dit le concept animal raisonnable.
Ouais.
Et à côté de ce point-là, il y a une autre question. Montrer dans ton cours, tout à fait sur Kant et après sur Heidegger, c'est-à-dire que pour Heidegger, Kant montrait la connaissance, le processus de connaissance à partir d'un point de vue fini, c'est-à-dire on ne pourrait plus connaître à partir de l'infini, on ne pourrait plus connaître du même point de vue que Dieu connaît les choses. C'était ça, la révolution du plan. Mais la forme composée, c'est toujours un point de vue ontologique. C'est-à-dire, on propose une forme, Dieu, homme sur homme. Tandis que la critique, l'étude qui radia fait sur Kant, c'est faire partie d'un point de vue épistémologique. La vérité est connue à partir... Nous connaissions la vérité dans l'âge classique comme on dit hypothétique connaît la vérité. Maintenant, nous connaissons la vérité, nous connaissons les choses, nous disons la vérité à partir des a priori dans l'espace et des priori de l'entendement. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux points de vue? Pour moi, ce n'est pas très clair tout ça.
La première question, je comprends. Pour moi, la seconde question, elle n'est pas très claire pour moi non plus. Redis la seconde question.
Heidegger dit, quand, à partir du quand, on comprend les processus de connaissance à partir d'un point de vue fini. C'est-à-dire, on ne peut pas connaître les choses comme un Dieu hypothétique les connaît. Parce que la connaissance vraie, dans ce que j'ai compris dans l'âge classique, c'était la connaissance telle comme Dieu l'a fait, comme Dieu lui-même l'a fait. L'homme connaît la vérité quand il se place du point de vue d'un Dieu hypothétique, d'un Dieu qui existerait, il dit la vérité sur les choses. C'est là, c'est un point de vue qui c'est pas une question de forme, la forme Dieu, la forme homme. C'est une question de... vers une connaissance à partir des points de vue différents. Point de vue Dieu, point de vue l'homme. Mais ce n'est pas une forme, c'est l'homme lui-même qui se place du point de vue de Dieu, il connaît les choses. Non?
Non. Non. Non, mais c'est pas intéressant, oui, ça peut se dire comme ça. Bon. Alors, la première question, c'était... Ça, c'était la seconde question, et la première question, c'était...
La forme composée Dieu, en même temps qu'il existe un concept d'homme. Ah,
le
concept d'homme, c'est seulement les forces dans l'homme, c'est ça?
Non. Non. Tu demandes quelle est. Tu dis à juste titre, toute époque quelle qu'elle soit, a un certain concept dans l'homme.
Oui.
C'est sûr. En revanche, ça ne veut pas dire que l'on pense. En rapportant l'ensemble des concepts à la forme homme. On distinguera donc le concept et la forme en disant, je suppose, des concepts, vous en avez toujours, à chaque époque. Vous avez par exemple un concept d'homme, un concept d'animal, etc. Mais la forme, c'est ce à quoi l'ensemble des concepts se rapportent comme à leurs conditions pour être pensés. D'accord ? Donc à chaque époque, il y a un concept d'homme. Par exemple, chez les Grecs, vous trouverez plusieurs mêmes concepts d'homme. L'homme animal raisonnable, ou bien l'homme animal politique, etc. Je remarque que, je vais très vite, le XVIIe siècle, l'âge classique, rompt avec ce genre de concept d'homme. Il prétend y substituer un autre type de concept. Par exemple, Descartes se refuse explicitement à définir l'homme comme animal raisonnable. C'est même ce qui est très intéressant chez Descartes. Il dit, ça ne veut rien dire homme animal raisonnable, parce qu'il faudrait déjà savoir ce que veut dire animal et ce que veut dire raisonnable. Donc, pas moyen. C'est se donner trop de présuppositions. Il faut définir l'homme autrement. Bien. Alors, ça, qu'il y ait des concepts d'homme qui changent, pas de problème. Bien. Mais, je dis, à l'âge classique, le concept d'homme, quel qu'il soit, se rapporte à une forme qui nécessairement ne peut pas être la forme homme. C'est-à-dire la forme qui permet de penser les concepts ne peut pas être la forme homme. La forme qui permet de penser les concepts, c'est la forme Dieu. Mais c'est pas simplement, si tu veux, ce que tu ajoutes est trop abstrait. Toi, tu dis, c'est vrai, c'est la forme Dieu qui permet de penser les concepts à l'âge classique, parce que la connaissance a pour modèle les choses telles qu'elles sont connues par Dieu. C'est pas faux, mais c'est abstrait. Ça ne rend pas compte de ce qu'il y a de vivant dans une pensée ou dans un siècle. Mais je crois qu'on pourrait assigner en fait une raison plus profonde dont la tienne ne ferait que découler. Cette raison plus profonde, c'est ceci. C'est même pas que l'âge classique pense à partir de l'infini. Car penser à partir de l'infini, on pourrait dire que la théologie du Moyen-Âge l'a déjà fait. Qui fait vraiment quelque chose de nouveau à l'âge classique, moi je crois ce qui fait que les classiques sont incomparables, c'est qu'ils se lancent dans une tentative qui réellement leur appartient. C'est pas tant penser l'infini ou à partir de l'infini, c'est ce qui est assez différent. Distinguer, parce qu'encore une fois, penser l'infini à partir de l'infini, vous pouvez dire, mais c'est déjà Saint Thomas, ou c'est déjà beaucoup de courants du Moyen-Âge. Ce qui me paraît incomparable dans la pensée, là je parle un peu pour mon compte, parce que ce n'est pas l'aspect qui intéresse beaucoup. Mais je me dis, raison de plus, ça lui donne raison de toute façon. C'est une tentative très très bizarre, comme ça. C'est le XVIIe siècle ne cesse pas de distinguer des ordres d'infini. C'est ça qui est nouveau chez eux. et penser que c'est quand même très original cette idée, parce que à première vue, ben, quand on a dit l'infini, on a dit l'infini, voilà, c'est pas facile, mais qu'il y ait des ordres d'infinité distincts, et comment se débrouiller dans des ordres d'infini? Je dirais que pour un homme classique, tout est infini, mais tout n'est pas infini au même sens et de la même façon. C'est une besogne un peu folle, mettre de l'ordre dans l'infini. C'est pour ça que je vous disais, pour moi, les grands textes du XVIIe siècle, ceux qui sont signés XVIIe siècle, et c'est par là qu'il reste éternellement moderne, c'est ceux qui essaient de distinguer les ordres d'infini. Ah, ne confondez pas cet infini-ci et cet infini-là. Il immobilise tout. Il immobilise la théologie, les mathématiques, la physique, tout, les sciences, les arts, pour introduire un ordre dans les infinis. Distinguer des ordres d'infini. Et toute l'angoisse du XVIIe siècle, c'est pas simplement la peur de se perdre dans l'infini. L'angoisse du XVIIe siècle, c'est la peur d'être submergé par des infinis dans lesquels on ne pourrait pas mettre d'ordre. Alors, du coup, voyez bien que la situation de l'homme au XVIIe siècle, c'est, je vous disais, l'homme a perdu tout sens. Et on le voit très bien chez Pascal, mais si chez Pascal ça apparaît particulièrement, c'est en vertu du génie proprement pascalien, mais chez tous, c'est ça. On n'a plus de centre. Tout le début de Descartes, tout le début des méditations de Descartes, c'est mais, mon Dieu, où est-ce que je vais trouver un centre? Alors, ils vont pouvoir le trouver que dans la mesure où ils ordonnent des infinis. S'il y a un ordre dans les infinis, un infini premier, un infini second, un infini troisième, etc., peut-être qu'on va pouvoir s'y reconnaître et reconnaître l'homme dans tous ces infinis. Si bien que l'homme sera pensé, mais il sera pensé, évidemment, dans son rapport avec les infinis, c'est-à-dire en rapport avec la forme Dieu, puisque tous les ordres d'infini doivent bien découler de la forme Dieu. Tous les ordres d'infini découlent diversement de la forme Dieu. Par exemple, il y a l'infini du monde. Mais c'est évident que l'infini du monde, il n'existerait pas, il ne serait pas, si le monde n'avait pas été créé par Dieu. C'est donc un infini d'effet. Tandis que l'infinité de Dieu lui-même, c'est un infini par soi. Dieu est infini par soi, tandis que le monde est infini par sa cause, qui est Dieu. Ce n'est pas le même infini, c'est déjà deux ordres d'infini. Alors, quelle est la situation de l'homme à la fois? L'homme, il est dans le monde, il participe à l'infini du monde. Mais il est à l'image de Dieu. Bien, il va falloir trouver la place de l'homme dans ses ordres d'infini. Et penser l'homme, ce sera assigner là où les places qu'il a en fonction de la forme Dieu. Si bien que ce qui est pensé, c'est en effet la forme Dieu. Il n'y a pas de forme homme. Il n'y a pas de forme homme, pourquoi ? Pour la simple raison que la forme homme, c'est uniquement la limitation, à certains égards, de la forme Dieu. Il faut simplement dire, pour avoir la forme homme, il suffit de dire quels aspects de Dieu se trouvent limités pour constituer la forme homme. La réponse de Descartes est célèbre. Les forces dans l'homme, c'est l'entendement et la volonté. Et la réponse étonnante de Descartes, c'est la volonté dans l'homme est infinie, autant qu'en Dieu. Donc au niveau de la volonté, il n'y a pas de différence. La volonté ne supporte pas la finitude, très bizarrement, chez Descartes. Peu importe pourquoi, mais... En revanche, l'homme n'a qu'un entendement fini. Dieu a un entendement infini. En d'autres termes, l'homme se définira par l'entendement fini, l'entendement fini étant une simple limitation de l'entendement infini. Dès lors, ce qui est pensé, c'est la forme Dieu, l'entendement infini. Alors, au niveau de l'entendement infini, tu as raison. C'est là qu'apparaît le problème, connaître les choses telles qu'elles sont. Voilà pour la première question, il me semble. La seconde question, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau de la découverte de la finitude qui va être la condition de constitution d'une forme homme. Voyez, la forme homme, ça s'enchaîne très bien, encore une fois, elle surgit à partir du moment où le fini n'est plus appréhendé comme une simple limitation de l'infini, mais saisi comme une force positive en elle-même, ou une force d'opposition. Or, pour le XVIIe siècle, c'est vrai que le fini est limitation et non pas opposition. Le fini est une limitation de l'infini, il ne s'oppose pas à l'infini. Pour que la forme homme surgisse et destitue la forme Dieu, il faut que la finitude soit saisie comme force positive, irréductible à une simple limitation.